Pour cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, contre votre fraternité, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Un mot trop, et c'est un mort plus dans nos rangs.
Les flics tabassent, sortent les P38 et les flics du flingue de classe.
Les flics, la police c'est le vice.
Et par des keufs se font paner, c'est connu, dans le Parisien t'as que des histoires comme as.
La route te guette, mec, les flics aussi.
Sois du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand ta frère meurt, frère un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans voir quoi.
D'Afrique occidentale dans ce pays que nous connaissons bien, monsieur Hamel.
Voilà,
nous assistons à une partie de football qui oppose donc deux équipes, le nord et le sud, et qui joue avec des ballons de cuir, monsieur Hamel. C'est bien cela?
Et voilà,
elles sont déjà sur le terrain. Elles sont venues pour demander une photo, un autographe qu'elles cacheront pendant la classe ou dans leur chambre sous leur coussin. Oui, même le football a ses idoles.
Voilà, bonjour.
Salut.
Salut.
Donc, si vous n'avez pas encore compris, c'est une émission qui va parler de foot. Et c'est le numéro 0. Donc, numéro 0, média participatif, alternatif et tout ce qui s'ensuit.
Indépendant, je crois. Là.
Ouais, les indépendantistes du Forêt. Et donc c'est, tous les, c'est un jeudi sur deux donc, sur Radio Duo. 89.5 qui recouvre Saint-Étienne et ses environs. C'est aussi on peut l'écouter aussi sur internet radiodio.org Et on peut appeler aussi, vous pouvez appeler si vous avez des commentaires, des questions, des critiques. On va parler aujourd'hui de foot, donc c'est au 04 77 438 895. On va parler de foot.
Absolument.
On est avec Michel et Serge et Lakhdar. Lakhdar Bellomi, Michel Platini et Serge Blanqui.
Ouais.
Voilà.
Bon, bah vas-y.
Donc, on va parler de foot. Donc, on va essayer d'aborder ce qui nous plaît, ce qu'on aime dans le foot. On va aussi, si on a le temps, parler de ce qui craint un peu. Mais bon, on va commencer d'abord par parler de ce qu'on aime dans le foot. Et donc, on va commencer au début pour dire pourquoi on va parler du foot au numéro 0, qui est quand même une émission un peu politiquement correcte et qui se veut parler de trucs un peu sérieux et pas de ces sauvages de supporters et de ce monde capitaliste footballistique. Ensuite, on va passer avec notre ami Michel qui va nous parler du mouvement ultra en général et en Italie particulièrement. Donc c'est quoi les ultras, tout ça. On parlera après de ce mouvement subversif en France, peut-être à Saint-Étienne, s'il y a de la subversion à Saint-Étienne.
Ouais, peut-être.
On parlera aussi de l'Algérie, tiens, on parle d'Algérie, ce qui s'est passé pour la Coupe du Monde en Algérie, ces défilés de sauvages d'Algériens qui faisaient tout et n'importe quoi dans la joie et la bonne humeur, et qu'est-ce que ça représentait. On fera des petites lectures de quelques bouquins qu'on a trouvés, qui parlent de foot et qu'on a bien aimé.
Si on a le temps.
Si on a le temps, j'espère qu'on aura le temps. Parler un petit peu de Dos Canseros et Football Factory de John King. Et pour finir, on essaiera de répondre à quelques questions.
Si on a le temps aussi.
Ouais, mais comme on disait, on a demandé à des amis de préparer des questions à la soviétique et pour répondre à ce qu'on voulait, mais personne n'a envoyé de questions. Par un anonyme qui a une question auquel on répondra.
On essaiera de répondre. Ouais. On essaiera. Du coup, ouais, l'intro est finie là.
Ouais, j'ai fini l'intro.
Bon, ok. Donc, Samo, alors en fait, du coup, ouais, pourquoi on voulait parler de foot dans numéro 0, comme il l'a dit, c'est que le numéro 0, comme l'a très bien dit Lakhdar, c'est un média alternatif, indépendant et participatif. Donc en parlant de foot, on a essayé de creuser un peu ce qu'il y avait d'indépendant et d'alternatif dans le monde du football, ce monde où les joueurs sont payés des millions de dollars et où il y a des pubs de partout et où c'est un business avec les droits télé, etc. Et bah, il se trouve que dans les stades de foot, il y a un mouvement qu'on peut dire alternatif, underground, qui s'est traduit par notamment le mouvement hooligan en Angleterre. Les mouvements ultra qui est né en Italie, qui est né en Italie. Enfin, on va surtout parler du cas italien en fait. Alors, du coup, juste avant pour rappeler quand même que le stade de foot, c'est à l'image de la société, hein, à l'intérieur, il y a les classes populaires qui se retrouvent généralement derrière les copes ou les courvées, comme on dit en italien. Les courvées. Et on a les tribunes de Bourges, les tribunes officielles, avec les petits fours, les stewards, etc., les hommes en costard cravate.
Petit champagne.
Et avec des places hors de prix, etc. Donc,
les petits coussins sur les sièges.
Absolument. Et où l'alcool est autorisé, d'ailleurs, alors qu'elle n'est pas autorisée dans les tribunes populaires. Mais bizarrement, chez les Bourges, l'alcool est autorisé.
On nous fait boire de la bière avec moins 1 degré d'alcool, c'est inadmissible.
Oui, en plus, ils ont du champagne, etc. Donc là, la séparation de classe qui est présente dans la société, elle est aussi présente au stade. Donc ça, c'était un petit avant-propos. Donc du coup, tous ces espaces, les ends qu'on appelle en Angleterre, les copes, les virages, en gros, tout l'espace qu'il y a derrière les buts, en fait, les cages de foot, il y a eu une réappropriation de cet espace par des tribunes populaires, ce qu'on appelle les tribunes populaires, et du coup qui a créé leur propre culture, leur propre sous-culture, contre-culture par rapport à plein de choses. Et notamment, il y a le mouvement ultra, un mouvement qui émerge. Il y a plusieurs versions. C'est un mouvement qui émerge qui a explosé vraiment en Italie. D'ailleurs, le mot ultra vient de l'Italie en fait. Et du coup, voilà, donc ça, j'en parlerai après, comment c'est né, dans quel contexte, etc.
Et comme tu disais, cette, Au numéro 0, on parle, normalement, on est censé parler de lutte, de gens qui luttent. Et ben, le foot, c'est le foot ou le mouvement des supporters ou les supporters, c'est aussi une lutte pour garder cette pratique et ce spectacle, pour le garder aux mains des gens qui le regardent et qui le pratiquent. C'est-à-dire
exactement.
Que les gens, c'est une lutte permanente, c'est-à-dire que c'est pas parce que ça craint, il y a des gens qui a été, enfin, cette pratique a été genre intégrée dans le monde capitaliste où il y a eu de l'argent, de la pub et tout, mais les gens quand même essayent de se le réapproprier. C'est une lutte permanente pour le garder entre les mains des gens, et c'est pour ça que c'est plus vaste que la lutte des classes quand même, parce que c'est plus général.
On rentre dans les grands mots.
Voilà. Donc c'est merde. Dans les grands mots. Donc il y a quand même une lutte qui se déroule dans les stades. Mais aussi il y a ce truc qui est un peu fou, farfelu, c'est que c'est un regroupement de milliers de personnes, de dizaines de milliers de personnes qui regardent un spectacle. Et ben dans tout ce regroupement, ça donne l'impression d'un défi quand même permanent à l'État. Où en fait c'est un affront. Les gens, ils sont là, ils se regroupent, et l'État ne peut pas comprendre ce truc-là, parce que il y a un genre d'indécision ou alors les décisions sont prises de manière, on va dire, pas aléatoire, mais une autre forme de prise de décision qui fait peur, parce que c'est pas contrôlable, personne ne peut contrôler, même les gens qui sont là, c'est pas rationnel, c'est irrationnel. Et les modes de décision qui sont prises quand il y a ce genre de regroupement de personnes, et ben ça fait peur à l'État, et ça fait faire des situations où il y a plein de possibilités, il y a des possibles, et c'est ce qui fait peur un peu, à l'État, ce qui est, c'est un peu un arbitraire, voilà. Et ça, je trouve ça intéressant parce que voilà, il y a plein de gens aussi qui cherchent cette sensation-là de se retrouver à plein et de s'offrir la possibilité d'avoir des possibilités. Et ça, c'est encore... Bon, il ne s'agit pas juste de s'offrir la possibilité d'avoir des possibilités, mais bon, faut aussi... voilà, quoi.
Moi, je voulais juste ajouter un truc, c'est que... on est, enfin, moi, personnellement, je pense pour vous aussi, on n'est pas des spécialistes du... mouvement ultra ou
absolument, ouais.
Ou ligan, je sais pas quoi.
On n'est ni sociologue ni historien,
ni rien du tout, et on peut dire des conneries et voilà.
Voilà, c'est juste intéressé au truc et puis voilà, en allant dans les stades et en voyant que des fois bah il y a des moments où c'est complètement irrationnel, mais on kiffe, on tripe tout simplement. Le but ce sera pas de vous convertir,
c'est qu'on aime bien, et juste on va pas
même si je me suis fait chier un paquet de fois au stade, hein, ça faut le dire aussi, ouais. Mais il y a des bons moments d'hystérie collective qui sont tripantes, tout simplement. Alors on va passer un petit morceau, justement, comme là on va aborder le mouvement ultra, un petit morceau d'un groupe de ska italien qui s'appelle Statuto. Bon, c'était un peu les Madness italiens, on va dire. Ils sont de Turin, ils étaient ultra du Torino. Et ils ont fait un morceau sur Ragazzo Ultra qui parle un peu de ce qu'on appelle la mentalità ultra. En gros, tu fais les chorégraphies, tu prépares ton tifo au stade et tu te fais chasser par les flics, et les journalistes te traitent comme un terroriste, mais ils comprennent pas ton style de vie, parce que ton style de vie, c'est être ultra, et voilà. Donc on va lancer Statuto des années 80.
Les ultra autonomes.
Ragazzo ultra,
Et voilà, toujours à l'écoute du numéro 0 sur le 89.5 de Radio Dio. Et c'est une spéciale football, pas Ligue 1 Orange, une spéciale football en général. Donc là, ouais, je vais essayer un peu de vous parler du mouvement Ultra. Alors, mouvement Ultra, qu'est-ce que c'est pour ceux qui... Bon, ceux qui connaissent vont pas apprendre grand-chose aujourd'hui, mais c'est plus quelque chose pour ceux qui connaissent pas, justement. Et alors, le mouvement Ultra, c'est ceux qui se retrouvent, en général, les gens qui se retrouvent derrière les cages, comme j'ai dit, dans les copes ou dans les virages, qui animent la tribune par des chants, des chorégraphies, des tifos. Alors, tifos, ce qu'on appelle, c'est des animations avec des bouts de carton, des bouts de papier ou des grandes voiles qui prennent toute la tribune. Des tifos, on tape dans les mains, on chante, on rythme la partie. En fait, voilà, il y a une volonté à la base de participer au spectacle qu'est le football, parce que bon, voilà, football, c'est un spectacle, et du coup d'être acteur et pas seulement un spectateur passif qui prend son Coca-Cola, ses pop-corn, qui s'assoit, qui applaudit les joueurs millionnaires, etc. Donc ouais, c'est un peu voilà une volonté d'être le 12e homme et d'influer éventuellement sur la partie. Donc voilà. Alors ce mouvement, il y a eu le mouvement hooligan dans les années 60 en Angleterre, et à la fin des années 60 en Italie apparaît le mouvement ultra avec le premier groupe à Milan qui apparaît en 68. Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Italie, le stade, à partir des années 60, ça devient vraiment spectacle, hein, la société du spectacle, et de plus en plus de jeunes vont se retrouver par équipe de quartier, souvent dans les tribunes, et vont se mettre surtout dès le départ derrière les tribunes, derrière les moins chers, en fait, en gros, quoi. Donc, ils se réunissent et dans le stade, et bon, à cette époque-là, bon, il y a 68, l'explosion sociale partout en Europe et dans le monde, et notamment en Italie, et à partir de 69, il y a de plus en plus de mouvements sociaux. En fait, bon, ça va durer 10 ans, ce qu'on a appelé les années de plomb par la suite. À partir de 69, il y a l'automne chaud à Turin, donc des agitations dans les usines. Il y a en décembre 69 Piazza Fontana, l'explosion à Milan. On disait que c'était les anarchistes qui avaient fait exploser une banque, en fait c'était un attentat fait par les fascistes et puis bon par l'État, etc. Donc à partir de là, il y a ce qu'on appelle les années de plomb avec des affrontements politiques dans la rue, etc. Donc à partir de là, en fait, c'est le croisement de ça, c'est-à-dire le croisement de cette jeunesse qui se rencontre dans les stades et puis ce contexte politique du coup, le mouvement ultra sort directement de ce contexte-là. Et du coup, les premiers groupes ultra, ils vont calquer leur organisation, son modèle des groupuscules gauchistes et tout ça, avec notamment les chants. On retrouve souvent les premiers chants des premiers groupes ultra, c'est des chants de manif qu'on reprend aux couleurs du club, avec les banderoles, les cortèges quand on se déplace. Enfin bon, toute une un tas de pratiques qui sont directement liées à la manifestation de rue, etc. quoi. Donc il y a aussi autre chose. Donc c'est ce qui apparaît en même temps, justement, ce qu'on voit à l'extérieur avec le contexte politique aussi, c'est que avant, bon, bah l'Italie, c'est quand même un pays où il y a quand même pas mal de il y a le Vatican, il y a le PCI. En gros, les mouvements de jeunesse, en fait, ils sont un peu aux mains de ces grands appareils d'État, etc. Le poids de l'Église en Italie est hyper fort. Et du coup, il y a un moment, à partir de 68, une volonté de la jeunesse de se libérer de ces mouvements. Et du coup, il y a un changement dans les repères, en fait. Il y a une volonté autogestionnaire, alternative, un esprit de solidarité, un désir d'autonomie, en fait. Et c'est pas pour rien qu'en même temps, dans les usines, on retrouve l'autonomie, les mouvements de l'autonomie ouvrière. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais on retrouve ça aussi, c'est-à-dire on est contre le PC, on est contre les syndicats qui sont liés à la démocratie chrétienne, contre les syndicats liés au PCI, etc. Dans les stades, on retrouve exactement la même chose. Il y a des jeunes qui commencent à s'organiser sur le modèle, en fait, des organisations gauchistes, des organisations de lutte armée, des organisations de ce qu'on appelait la gauche extra-parlementaire en Italie. Et voilà. Donc en gros, alors déjà, et puis en plus, il y a une volonté de plusieurs facteurs. En gros, la passion pour l'équipe. Alors l'esprit de clocher en Italie, le campanilisme, il est super fort. Ça date du Moyen-Âge, il y avait les cités-états, etc. Donc voilà, puis l'unité nationale a été tardive. On parle encore son dialecte, chaque ville a son dialecte. Donc il y a vraiment une identité urbaine qui est hyper forte et qui va se retrouver en fait avec... bah voilà, le soutien derrière son équipe de foot, c'est aussi c'est une marque de cette identité-là. Il y a donc cet engagement politique et surtout la fascination pour les mouvements extrémistes, hein, parce qu'il y a les mouvements gauchistes, mais aussi l'extrême droite. À l'époque, dès le début, il y a quelques groupes d'extrême droite qui se montrent des mouvements ultra d'extrême droite. Et puis l'aspiration du mouvement hooligan en Angleterre, donc la violence, réappropriation du stade, la jeunesse, etc. quoi. Donc petit à petit, du coup, il y a les groupes, ils vont créer leur nom avec leur propre nom. C'est des bandes de jeunes qui se retrouvent autour d'un bar, etc. D'un bar, d'un quartier ou d'un espace dans la tribune. Et il y a cette forte notion de territoire avec l'identité de groupe. Et chaque groupe va avoir son symbole. Donc on va plus avoir le soutien au club, mais on va avoir vraiment ce truc de soutien au groupe. Alors souvent les symboles, c'est des éléments guerriers. On a souvent la tête d'Alex d'Orange Mécanique qui va être souvent reprise. Les têtes de mort qui symbolisent la piraterie, les fauves, etc. Ou les symboles politiques. Alors le Che, l'étoile rouge, les croix celtiques aussi pour les autres, etc. Donc du coup, ouais, comme je disais, on a souvent ce truc qui est calqué sur les organisations extra-parlementaires. Et rien que dans le nom des premiers groupes, des années, surtout dans les années 70 qui vont se monter, ça va se retraduire. On va avoir les Brigate Rossonere, donc référence aux Brigades Rouges à Milan. On va avoir les Nuclei Armati Bianconeri, avec l'accent. C'est basé sur les nappes, les noyaux armés prolétaires. Voilà, on va avoir les avant-gardes, Fedaïn, Septembre Noir, en référence à l'organisation palestinienne, Collectif Autonome, Tupamaros, Brigade Autonome, des choses comme ça. Et puis à l'extrême droite, on va retrouver le Fronte Bianconero, c'est le référence au front de la jeunesse qui est fasciste, etc. Et rien que le terme ultra, bon, le premier terme ultra, il apparaît avec des ultras de la Sampdoria, à Gênes. Et en fait, c'est référence à l'ultra-gauche de l'époque. Donc alors, ce qui est nouveau, en fait, là, c'est que du coup, quelque chose qui va se créer, qui va créer ses propres moyens d'expression, sa propre culture, etc. autour d'un espace qui est la courbe, donc le virage, etc. Une mentalité avec ses rites spécifiques, ce qu'on appelle la mentalita, mentalité ultra. Alors c'est l'indépendance, voilà, numéro zéro, média indépendant. C'est l'indépendance par rapport au club et par rapport à toutes les institutions, les directions du club. Les institutions footballistiques, que ce soit maintenant on le retrouve autour des droits télé, etc., où les ultras vont protester, ils vont s'autogérer financièrement et puis même dans les pratiques, organiser les déplacements à l'extérieur, etc., ramener les étendards pour soutenir l'équipe. On va avoir les premiers fanzines aussi qui apparaissent, hein, donc fanzine, voilà, c'est un peu un signe que c'est une culture, une sous-culture, une culture urbaine de la rue et underground aussi. Et puis voilà, on va voir l'étendard comme moyen d'expression aussi. Alors bon, ça peut être des messages contre l'équipe quand elle joue mal, ça peut être des messages pour narguer les supporters ultra de l'autre équipe, ça peut être des messages contre la direction du club, contre les médias, contre le football business, et puis aussi des messages plus politiques. Alors après, ça dépend de la couleur politique de la courva, en gros, hein, parce que bon, c'est à Livourne qui est une courva réputée pour être gauchiste. On va avoir plein de banderoles sur qui va soutenir la lutte notave en Italie du Nord, donc c'est contre le Lyon-Turin. Et puis à côté de ça, les ultras de la Lazio, eux, vont plutôt faire des banderoles pour soutenir, par exemple, qu'ils en ont fait une il n'y a pas longtemps, soutenir Arkane, un ultranationaliste serbe. Donc voilà. Après, voilà. Mais on a vraiment ce truc où c'est la banderole, c'est un moyen d'expression où, ben voilà, on peut dire ce qu'on veut. Et puis malgré tout, dans un monde où voilà, les moments d'expression sont rares, le stade, c'est un moyen aussi pour faire passer ces messages et qui vont bien au-delà du foot que la plupart du temps. Donc alors, en gros, ouais, je voulais voir un truc juste cet espace-là qui est la tribune, en fait. Un ultra italien, justement, qui comparait ça avec ce qu'on appelait les zones d'autonomie temporaire. Alors là, on rejoint un peu le lien avec ce que peut parler d'habitude le numéro zéro. C'est-à-dire que, en gros, c'est un endroit où c'est une terre qui est autonome, où ceux qui en fixent les règles, c'est les occupants de la tribune eux-mêmes. Et même, il va plus loin en disant que, du coup, le stade et la tribune, c'est devenu une zone d'autonomie permanente. Parce que c'est une zone qui a été libérée, enfin à l'intérieur d'un territoire monopolisé par l'État, c'est un territoire libéré en gros par les participants eux-mêmes et par les, et par en l'occurrence les ultras. Donc il y a plusieurs exemples. C'est un fait où il y a des comportements, c'est un endroit où des comportements traditionnellement illicites, où on a besoin de se cacher, on peut les faire sans aucune impunité. Par exemple, on peut fumer des joints sans aucune impunité, on peut balancer des projectiles sur les, sur le, enfin là je parle des années 70, hein, parce que bon maintenant c'est un peu moins le cas, mais on pouvait balancer les. Ouais.
Il y a aussi le fait que si, l'intrusion des flics, ben elle se fait pas comme ça quoi.
Exactement, exactement. Ouais, justement, c'est un territoire libéré dans le sens où quand les flics rentrent, en général ils se font recevoir. Et ça c'est bon partout, hein, y a pas qu'en Italie, partout quoi. Donc on peut balancer les projectiles, se confronter au keuf, on peut en déplacement, on peut dépouiller une station-service, tout casser à l'intérieur et puis
foutre le cœur.
sans avoir trop de soucis, on peut défoncer un train sans avoir trop de soucis non plus. Donc en fait c'est à partir de là justement, et c'est aussi pour ça que comme ils l'ont fait en Angleterre dans les années 80. Comme ils l'ont fait en Italie aussi, et qui continuent à le faire d'ailleurs. C'est pour ça que, voilà, l'État essaye de reconquérir ces espaces, et quand on entend les politiciens italiens parler des tribunes, ils parlent de zones de non-droit, par exemple, comme on pourrait parler, voilà, nous on parle de zones de non-droit, de non-droit dans les quartiers, dans les cités, etc. Oui, ils parlent de zones de non-droit dans les stades. Et, on peut aussi faire le parallèle avec tout leur discours. Il y a le bon supporter et le mauvais supporter qu'on peut retrouver avec l'image du bon manifestant casseur, avec le mauvais...
Le bon citoyen.
Voilà, le bon manifestant et le mauvais manifestant, etc. Donc, il y a toujours, ouais, il y a ce truc qu'on peut calquer, quoi. Alors, du coup, ça, il y a eu pas mal de, je vais pas passer parce que bon, la violence a toujours fait partie du mouvement ultra, ça faut pas le nier. Et du foot en général, hein,
faut l'assumer, je pense.
Voilà, les premiers incidents en Italie, c'est pour Pise-Livourne, qui est un derby assez chaud, qui date de 1910. Donc, la violence dans le foot, elle est pas nouvelle. Bon, c'est vrai qu'avec le mouvement ultra, le mouvement hooligan, la violence, c'est clair qu'elle fait vraiment partie du truc, quoi. Donc, il y a eu des morts, etc. Et au début, comme en Italie dans les années 70, il y avait des morts dans la rue tous les jours avec les affrontements entre flics ou manifestants, ou entre les fachos et les gauchistes, on va dire, ils vont pas s'intéresser au stade tout de suite. Et d'ailleurs, souvent, on retrouve ça le dimanche, par exemple, dans les années 70, l'addio Roma. C'est un moyen de prolonger le dimanche qui se faisait la semaine. La semaine, ils se mettaient sur la gueule parce que l'addio, c'était souvent les fascistes, et la Roma, plutôt les gens d'extrême gauche. Là, le dimanche, eh ben, voilà, ça permet de continuer là. Au lieu d'aller à l'église. Et ben on se frite au stade quoi. Donc du coup voilà. Alors bon, je vais aller vite et du coup on va passer. Ouais. Alors voilà, la violence au stade. J'ai pas passé sur toutes les bastons parce qu'il y en aurait beaucoup. Mais depuis les années 2000, il y a une violence qui se déplace du stade suite aux mesures répressives, qui se déplace de plus en plus contre les flics en fait. Et du coup il y a encore des affrontements entre les supporters. Mais avec la répression, tout ça, le mouvement ultra va s'organiser et pour lutter contre cette répression, malgré les rivalités. Et du coup, on va passer quelques petits extraits de stade italien. Je vous ferai des petites traductions qui montrent bien un peu ce côté-là de chant.
Oh!
Et voilà, bon, on a peut-être pas, le son était pas terrible, mais bon, tout c'était en italien. Alors ouais, du coup, il y a juste un chambre, il y a plein de chants qui disent genre notamment, et le flic c'est le métier le plus infâme qu'il y ait. Quand il met ça, quand il met son uniforme, il se prend pour un lion, mais tu sais que dans la vie c'est qu'un homme de merde. En gros, des trucs comme ça. Les merdes avec les casques bleus, parce que les flics ont des casques bleus en Italie. Il y en a un autre qui est marrant, c'est dans ma ville il y a une maladie qui ne se guérit pas, c'est la police. Et il y en a un qui est pas mal, c'était par rapport justement aux dernières lois, c'est le premier qu'on a entendu. C'est en gros, ça dit, l'État fait une loi qui dit aux carabiniers ceci, dès que tu rencontres un tifoso, donc un supporter, arrête-le et amène-le au commissariat. Alors à peine arrivé au commissariat, le flic devra trembler, car la loi ne nous fait pas peur, l'État ne nous arrêtera pas. En effet, l'État ne nous arrêtera pas, parce que la vie de l'ultra, comme on le sait, ne connaît que deux lois, la cohérence et la mentalité. Voilà. Donc c'est un petit extrait justement qui reflète bien un peu tout ce qu'on a dit juste avant. Donc voilà. Alors par rapport justement à ces mesures répressives, là je vais faire un grand saut dans le temps parce qu'il y en a eu plein, mais on va passer directement en 2007 où alors il y a des interdictions de stade qui existent en Italie depuis un moment, qui s'appellent la DASPO en gros. Et voilà. Et depuis 2007, on a franchi encore un pas. Il y a eu un derby sicilien. Enfin, il y a eu des événements qui ont fait que ça parte vraiment au coup. Il y a eu un derby sicilien où il y a un inspecteur de police, Racchitti, qui est mort, en fait, lors du derby Catane-Palerme. Donc voilà. Donc c'était drôle. Après, c'est dans tous les stades, tous les gens chantaient 10, 100, 1000 Racchitti. Voilà. Je trouvais ça assez rigolo. Il y avait des banderoles comme quoi Carlo Giuliani a été vengé. Donc ça, c'était plutôt chez les ultras de gauche, on va dire. Et voilà. Et du coup, donc, et puis il y a eu ça. Et puis il y a eu dans une aire d'autoroute, il y a un ultra de la Lazio qui est mort. Et quand on a appris sa mort, tous les stades le jour même, tous les matchs ont dû être annulés parce que c'est parti en couille dans absolument tous les stades et les matchs ont pas pu se faire, quoi, avec des affrontements dans tous les stades d'Italie, un peu partout. Donc suite à ça, il y a un député qui s'appelle Maroni qui a...
Précise par qui il s'est fait tuer.
Par un flic, oui, c'est vrai, donc voilà, et du coup, suite à ces incidents, il y a un député qui s'appelle Maroni, qui est un député de la Ligue du Nord, donc parti fasciste, on peut le dire, un parti fasciste qui est pour la sécession du Nord, bon bref, je vais pas rentrer dans les détails, qui met en place... La tessera del tifoso, c'est la carte du supporter. Et cette carte, en fait, c'est une carte de crédit, sinon ce qu'on peut payer, c'est elle est fournie par les banques, elle est payante, donc là on peut faire le lien avec le foot business aussi. Elle est payante et en gros, elle est desservie. Si vous êtes fiché ou si vous avez été dénoncé par quelqu'un, vous n'avez pas droit de la prendre et du coup, vous pouvez pas rentrer au stade. Donc cette loi, ouais, elle date de 2010. Et c'est sur simple direction du, en fait, simple décision du préfet de police qui décide si t'as le droit d'aller au stade ou si t'as pas le droit et sans jugement, etc. Donc voilà. Alors ouais, il y a ça aussi. Il y a aussi le fait que il y avait un ultra de Livourne qui disait quelque chose. Enfin, j'ai lu une interview de lui qui disait un truc assez juste, c'est que lui, il voit le stade en Italie, surtout depuis les années 90-2000, comme un laboratoire de la répression, en fait, ce qui devient un peu le cas en France aussi, hein,
parce que ouais, donc ça se déplace, quoi.
Voilà.
Ça se déplace.
Ouais, exactement. Parce qu'au début, les supporters étaient obligés de faire leur sécurité eux-mêmes quand ils se déplaçaient. Les flics s'en foutaient, donc ils arrivaient avec des casques et des bâtons pour pouvoir se défendre s'ils se faisaient attaquer. Après, il y a eu l'intrusion des forces de police, des caméras, etc. Ça a été vraiment un laboratoire. On a mis les caméras au stade en Italie avant de les mettre dans la rue. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que par rapport à cette carte du supporter là, et à la loi DASPO, la DASPO, c'est l'interdiction d'accéder à des manifestations sportives. Il y a un député, Mantovano, il s'appelle, un député italien, qui a proposé justement d'élargir cette carte du supporter et de la DASPO à toutes les manifestations publiques. Alors, en fait, c'était suite aux derniers événements qu'il y a eu en décembre à Rome, justement les grosses manifs à Rome. Il s'est dit, bah tiens, si on faisait ça pour tout le monde, si on l'appliquait à tout le monde, du coup, si vous êtes fiché ou si vous avez, voilà, on peut vous donner... On peut vous donner, vous êtes obligé d'aller signer au commissariat pendant la manif, etc. Donc ce qui se faisait au stade va sûrement, d'ailleurs il y a un projet de loi qui va être voté bientôt et va sûrement être appliqué à toute la société en fait. Donc là on voit vraiment que c'est un laboratoire de la répression, quoi.
C'est pour plus d'égalité entre les gens, quoi.
Voilà, exactement.
Que tout donc, le monde soit au même pied.
Voilà. Donc j'en ai fini. Bon, on n'a pas trop le temps, donc je vais aller assez vite. On va passer un petit morceau justement. Voilà, on parlait des ultras contre les flics. On va passer ACAB, parce que c'est un truc qui a bien été repris par le mouvement ultra. On voit des ACAB fleurir un peu partout. All cops are bastards, tous les flics sont des bâtards. Voilà.
Toujours à l'écoute de Radio Dio 895 et on parle toujours de foot. Et maintenant, on va parler d'ultra, de mouvement ultra en France avec notre camarade Serge Blanqui.
Alors, bon, je vais parler du mouvement ultra, enfin essayer de parler du mouvement ultra en France. Je vais faire surtout parler des mouvements de protestation et de la politique dans les stades en France. Alors, juste pour introduire, les premiers groupes ultra en France, ils apparaissent en 84 avec le Commando Ultra à Marseille et le COP Ciel et Marine au Havre. Alors, les mouvements en France, il est quand même beaucoup moins fort qu'en Italie ou que dans d'autres pays européens ou même d'Amérique du Sud ou même au Japon ou en Corée du Sud. Alors, les mouvements, bah, évidemment, est aussi assez violent au début, jusqu'à peu près la fin des années 2000, et puis s'en est suivi toutes sortes de mesures répressives qui ont calmé quand même pas mal les ardeurs. Alors, au niveau de la politique, c'est moins marqué qu'en Italie, par exemple, où c'est très marqué, ou qu'en Croatie, où c'est... très, très extrême droite, nazillon. En Croatie, on recense un seul groupe qui est un peu à tendance gauchiste, quoi. Juste par exemple, je vais parler vite fait de Saint-Étienne. Un des premiers groupes je ne sais pas si on peut parler d'ultra, mais qui est apparu, c'est le Fan Club. C'était il y a assez longtemps. Ensuite, il y a eu les Fighters, après les Black Panthers, les Green Warriors, qui étaient dans la même tribune que les Magic Fans. Les Green Warriors sont devenus les Green Angels. Et ils étaient dans le Cop Nord. Et en 93, les Green Angels ont migré dans la tribune en face. Voilà, juste pour parler de Saint-Etienne vite fait.
Parce qu'ils ne voulaient pas rester ensemble vous...
Parce qu'ils ne s'aimaient pas trop.
Ah bon.
Ils avaient quelques ils s'aimaient pas bien.
Différents.
Différents.
C'était des différents politiques ou
politiques et des différentes personnes aussi. Ouais. Beaucoup, ouais. Tu voulais dire?
Non, je disais Joker.
Ouais. Joker.
Ouais.
Enfin, on sait pas trop quoi. Alors, en France, il y a des ultras. On en retrouve des groupes ultras de la Ligue 1 à la Nationale. Surtout en Ligue 1 et Ligue 2, Il y a quelques cas comme les irréductibles de Toulon qui sont en CFA. Voilà. Alors maintenant, je vais parler des mouvements de la politique et des mouvements de protestation dans les tribunes. Alors, juste pour introduire, dans les années 80, dans la rue, il y avait les bastons entre les fascistes, antifascistes, racistes, antiracistes, tout ça. Et ça s'est assez quand même reporté dans les stades. Voilà, c'est...
Tu veux dire que les bastons de dehors, ça se finissait dedans, quoi.
Ça se finissait dedans. Non, c'est les bastons de dehors qui n'existaient plus. Parce que dans la rue, c'était surtout notamment... Il y en a eu beaucoup à Paris. Dans la rue, c'était plus possible parce que tout le monde se faisait serrer par les flics à chaque fois. Et donc, ça s'est... Les skinheads qui se tapaient dessus ont investi les tribunes. Dans quasi chaque groupe ultra, il y a une volonté de se définir comme un politique en France, mais chaque groupe a quand même marqué, beaucoup de groupes sont quand même marqués ou à gauche ou à droite avec un grand G et un grand D pour la faire courte. Pour préciser, dans le début des années 90, il y a des organes politiques comme le FN, par exemple. Ils ont tenté d'investir les tribunes, mais bon, ils se sont ramassés. Ça n'a pas du tout marché. Ils ont été très mal accueillis. Ça a un peu marché au sein des Boulogne Boys, qui sont maintenant dissous. On retrouvait beaucoup de sympathisants ou quartiers du FN. Malgré l'orientation politique des gens, des ultras du stade, à l'extérieur du stade, ils ne sont pas forcément activistes au sein de collectifs ou de choses comme ça, ou de partis, de tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, c'était une petite introduction. Enfin, une grosse et une introduction. Hein ? Ah oui, alors...
Ouais, si je puis me permettre, quand même, quand il y avait eu une espèce de petit gueuleton de facho à Saint-Étienne le 11 novembre, il y avait pas mal de supporters qui s'étaient bougés pour
c'est ce qui
contre
se dit,
eux, quoi.
C'est ce qui se dit.
C'est ce qui se dit, apparemment. Apparemment.
D'accord, c'était l'interruption du moment.
Ouais, c'est ce qui se dit, mais... Enfin, moi, j'ai pas envie de trop parler de quelle personne, de quel groupe était là, présent à ce moment-là. Ça, c'est... Voilà.
C'était apolitique.
Voilà,
ça
on va dire
aucun,
ça.
Ça n'a aucun sens politique.
Alors, pour enchaîner, je vais donner quelques exemples de groupes plus connus en France et un peu leur orientation politique. Après, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui trouvent que je dis des conneries, dites-le. Hein.
Donc, à appeler.
Alors, par exemple, à commencer par les Lillois, le Dog Virage Est, créé dans les années 90. Et, bon, moi, je les déteste. C'est des très, 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 très à droite. Par exemple, juste pour donner un petit exemple de leur connerie, il y a 4 ans, quand ils s'étaient déplacés à Saint-Étienne, ils avaient enfin trouvé le chemin du stade, ils avaient fait une petite croix celtique humaine, c'était super sympa à regarder la photo sur internet. Hein. Alors après, au Paris Saint-Germain, par exemple, il y avait Boulogne Boys 85. Alors eux, cris raciste, banderole raciste, on en dénombre des saluts nazis, on en dénombre des... Ouh là là, il y en a tellement. Par exemple, à Lyon, maintenant, il y avait Bad Gone.
Autrement appelé les vilains.
Les vilains ou les pas beaux. Alors eux, ils sont créés en 86 et ce qu'il y a de marrant, c'est que quelques mois ou quelques années avant que la création, donc eux, ils se trouvent dans la tribune nord, il y avait des petits nazillons sympas avec qui sortaient des croix nazies juste avant que le groupe se crée. Donc c'est pas un hasard si le groupe s'est créé ici. Par exemple, leur première écharpe. Où c'est marqué Bad Gone 85, et derrière les vilains, il y a une petite croix celtique en plein milieu, assez sympa à voir. Les derniers en date, c'est à Cosa Nostra qui s'est créé en face à Lyon, et qui a été dissous pour insultes racistes. Alors, toujours, on va continuer chez les fachos. Bah, par exemple, il y a à Nice, la Brigade Sud de Nice, qui est une identité niçoise qu'il faudrait qu'un jour ils nous expliquent et qui sont... qui en deviennent...
Ils n'existeront pas avant que... Enfin,
ils n'existent plus, d'ailleurs.
Non, d'ailleurs, ça n'existe plus. Ouais. Enfin,
ils n'auront pas le temps de nous expliquer.
Ouais. Alors, sinon, des exemples de...
On les a écrasés avant.
Oui, c'est sûr. Dans les exemples de groupes, on va dire, gauchos, alors il y a... À Marseille, les South Winners, c'est des grands fans de Che Guevara et de Maradona qui s'est fait tatouer un petit tatouage de Fidel Castro sur son mollet gauche. Il y a ces Commando Ultra qui...
Si je peux me permettre, ils ont surtout découvert que le Che faisait vendre plein de maillots, plein de t-shirts.
Ah oui, mais ça, j'allais le dire après, ça.
Ah merde.
Ah, mais on a les plantunes qu'on peut, hein. Faut bien payer les déplacements, quoi.
Ouais, et la bière. Hein.
La bière, les banderoles et tout.
Et puis les salariés du groupe aussi.
Ouais. Bon, vas-y. Il y a le Commando Ultra qui sont, c'est, on va dire, des skinheads plus antiracistes, mais assez mitigés quand même. Enfin, mitigés.
Ils n'ont pas trop le choix à Marseille quand même.
Si, il y a les Dodgers par contre, c'est un petit groupe. Ils se sont jamais cachés qu'ils étaient bien à droite, quoi. Ah ouais.
À partir de là.
Oui, pardon. Oui, alors, par exemple, je vais donner juste un dernier exemple. C'est à Toulouse, les Indians, qui sont des skinheads d'extrême gauche. Et si je veux parler d'eux, c'est parce qu'il y a... Il y a combien de temps déjà que l'autre, il est mort en Serbie? Il y a...
Un mois.
Deux ans.
Ah ouais.
Il y a deux ans, il y en a un qui s'est fait tuer, qui s'est fait tuer en déplacement en Serbie, et en Serbie ils aiment pas bien quand il y a des étrangers qui viennent dans leur ville, et surtout s'ils sont antifascistes, ça leur plaît pas trop. Donc voilà. Alors on a fini sur le mouvement, la politique dans les stades. Maintenant, je vais parler juste vite fait de comment les groupes s'organisent pour contrer la répression en France. Alors, il y a eu en 2007 le Conseil national des supporters qui a été fondé, créé, impulsé par les Boulogne Boys, mais ça s'est vite arrêté et ça a donné la coordination nationale des ultras. Alors, c'est une espèce d'organisation représentative et revendicative des ultras. Alors, je vais faire vite fait quelques exemples, par exemple, de ce qu'ils demandent. Droit à utiliser matériel pour les tribunes, sono, banderoles, etc. Droit de siéger au CA des clubs et des instances dirigeantes, ça j'en reparlerai vite fait après. Considération des supporters comme acteurs du club et non comme des clients. Condamnation des interdictions de stade abusives. Condamnation des peines alourdies pour les fans de foot. Rejet des billets nominatifs. Rejet des fichages systématiques des adhérents des associations, même si certains groupes se gênent pas pour les communiquer. Rejet du G14 qui est un peu comme le G20 mais dans le foot avec les 14 plus grands clubs les plus riches d'Europe. Condamnation de vendre les licences permettant l'utilisation du nom du club et de l'associer à des activités étrangères au foot. Veiller à ce que le foot reste populaire. Rejet de l'augmentation du prix des places. Préservation du tarif unique à l'extérieur qui est normalement de 8 euros. Enfin, qui était de 8 euros. Alors concrètement... La première action commune, ça a été de mettre une banderole « Supporter n'est pas un crime » qui est apparue dans beaucoup de stades. Il y a un fanzine commun du Coordination Nationale des Ultras qui s'est écrit, compte rendu des réus, tout ça. Et en clair, c'est gueuler, insulter la Ligue, des banderoles, grève des déplacements, des chants, et voilà. Non, sinon, juste pour conclure, rapidos... aujourd'hui, une espèce d'institutionnalisation des groupes qui se déclarent contre le foot business, mais comme disait Michel, il y en a qui se gênent pas pour faire plein de fric grâce à ça et vendre plein de choses. Voilà.
Et c'est pas bien.
Et c'est pas
c'est
bien.
Mal.
C'est mal.
Oui. Bon, bah, on passe à autre chose, on passe à l'Algérie.
Allez.
Bon. Bon. C'est la transition. Non, mais je pense qu'on j'aurai pas beaucoup de temps pour parler de l'Algérie.
Mais bon,
non, mais c'est pas grave. Je reviendrai juste vite fait sur l'épisode de Coupe du Monde de l'Algérie de cet été, un peu avant. Et ce que ça a drainé, ce que ça a impliqué comme mobilisation. Pour resituer, donc il y avait toute une, pour resituer le tout, c'est que il s'est passé des trucs un peu fous quand même. C'est que il y a eu un genre d'engouement populaire mais super massif pour l'équipe nationale algérienne. Alors les gens comprenaient pas trop ce qui se passait, il y avait des gens qui défilaient un peu partout en mode un peu sauvage, les jeux, voilà. Il y avait une genre d'hystérie comme ça, collective, partagée par plein de gens, depuis de générations, de différentes générations, c'est voilà. Et par exemple, en France, les gens comprenaient pas trop parce que même quand l'équipe d'Algérie perdait, ben, les gens défilaient quand même. Il y avait des défilés, et puis les gens, ils étaient quand même contents, même si l'Algérie perdait. Alors, les gens, ils se disaient, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Ils ont perdu. Et donc, donc même les flics, même quand ils sont là, même si l'Algérie perd ou gagne. Donc voilà. Donc pour resituer, c'était tout a commencé un peu vers juin, ouais, juin 2009, je crois que c'est le 6 ou le 7 juin 2009, où il y avait un match de qualification pour la Coupe du Monde contre l'Égypte en Algérie. Donc les gens ne s'attendaient pas à grand chose. Bon, l'équipe d'Algérie, bon, c'est pas
ils sont nuls,
voilà, ils sont un peu nuls, ça joue pas des gros, c'est pas l'équipe de 82 ou 86,
c'est aussi fort que Besançon en France, voilà. Quoi,
donc ça joue pas, c'est un peu banal quand même. Bon, c'est, il y a de la volonté, les joueurs sont un peu valeureux quand même, ils essayent, ils y mettent du cœur, mais bon, ouais. Voilà, le niveau est ce qu'il est. Et donc, bon, il y a l'Égypte aussi, bon. Donc, ça jouait contre l'Égypte, et puis les gens ne s'attendaient pas à grand chose. Donc, il y a eu première mi-temps, un peu bon comme d'habitude. C'est pas fameux. Et puis là, retour du vestiaire, et puis en un quart d'heure, ils ont marqué 3 buts avec un niveau extraordinaire, parce qu'on n'a jamais vu ça. Et là, tout le monde s'est mis à y croire un peu, donc à supporter un peu cette équipe, et se dire, voilà, le match a fini par 3-1, et là, il y a eu grosse fête, mais vraiment populaire, genre. Dans les rues d'Alger, par exemple, où moi j'y étais, c'était un truc de fou. Les anciens qui ont connu l'indépendance de l'Algérie comparaient ça à l'indépendance de l'Algérie. Ça sortait de partout. Non, c'est vrai. Toutes les places d'Alger étaient bloquées jusqu'à 5-6 heures du matin. Tout le monde festoyait, mais c'était hallucinant, quoi, de voir cette hystérie. Cette hystérie où les gens, donc il y avait les darons, les vieux, les vieilles, les jeunes, les moins jeunes, et alors ce qui se passe, c'est que, alors cette situation de fête comme ça, où c'est collectif, partagé par plein de gens quand même, où c'est pas juste des jeunes mecs qui gueulent et torse nu, là c'est vraiment plein de gens, c'est que ça crée des situations pas d'arbitraire, mais des situations en suspens où voilà, comme je disais tout à l'heure, plein de trucs sont possibles, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent. Par exemple, à Alger, il y a des barrages de partout, des barrages de flics et tout. Et ben, pour dans ces occasions-là d'hystérie, de joie comme ça, de fête, et ben les barrages de flics se font sauter, il y a plus de barrages, les gens ils passent à 80 à l'heure devant un barrage, les flics, ils font plus rien, ils regardent, ils peuvent plus rien faire parce que juste. Donc voilà, c'est ce genre de situation qui est quand même hallucinant à voir. Et donc le mouvement a été le mouvement de voilà, ce mouvement-là de fêter les rencontres de l'équipe nationale d'Algérie a commencé un peu à ce moment-là avec la victoire sur l'Égypte. Et puis ça a continué à chaque rencontre, avec quand même des pics quand l'Algérie joue contre l'Égypte, parce que bon, c'est quand même des genres de, il y a une genre de enfin c'est des, pas des ennemis, mais bon, une compétition, voilà, historique entre l'Algérie et l'Égypte. Et donc il y a eu tout ça. Et donc c'est ça ce qui a été rendu possible, c'est le fait de fêter une joie et ensemble. C'est-à-dire, faut rappeler aussi que en Algérie, par exemple, il n'y a pas vraiment d'endroit ou d'espace et d'espace-temps pour se réunir, pour se retrouver à plein. Et le foot a permis que, ben, cette occasion-là a permis que que plein de gens se rencontrent, se mettent à faire la fête ensemble, en fait, faire la fête ensemble, ce qui est pas possible d'habitude, parce que les réunions en Algérie, par exemple, bon, on va pas s'en plaindre que les réunions, elles sont interdites, mais tout rassemblement un peu public, est interdit. Donc, il n'y a pas moyen. Et là, ce prétexte-là de se retrouver. Et donc, se retrouver ensemble à plein. Et puis, se rendre compte que à plein comme ça, il y a des possibilités où tout ça devient un peu possible en fait. Et limite, on aurait pu croire à un genre de renversement où se dire voilà, tant qu'on y est, on fait la fête et tout. Et ben, on n'a qu'à aller au palais du gouvernement, on n'a qu'à juste faire bon, ben, on n'a qu'à aller bouger là, ceux qui nous font chier en haut. Et en fait, c'était un peu fou quoi, comme c'est un peu fou comme. Et en même temps, par exemple, on a vu pour ce genre de fête. La joie se manifestait de différentes manières. Donc on avait des gens qui se mettaient qui roulaient toute allure, à toute vitesse avec 10 personnes sur le toit de la voiture. T'avais des gens qui pétaient des vitrines.
Des gens, t'as lu?
Ouais, des gens sur les jantes, tu vois. il y avait des gens qui pétaient des vitrines, des gens qui attaquaient les flics, des vieilles qui lançaient des gros youyou, et puis à Saint-Étienne par exemple, des gens qui voulaient péter des trams, et ça c'est, je trouve ça rigolo comme, et puis tout ça dans la joie et la bonne humeur en fait. Les gens ils sont contents, alors voilà, ils font quoi, ils pètent des voitures, ils pètent des vitrines. et puis t'as les vieilles qui disent oh non mais quand même, et puis bon, bah... Et c'est ça en fait, cette vision de la fête et de la joie comme ça, en fait elle est pour autre chose, voilà, elle s'exprime. Et donc dans cette joie expansive comme ça, bon, forcément il y a le truc un peu moins marrant où ça se confronte aux flics, donc voilà. Après il y a toujours les flics qui sont là à faire chier, bon bah voilà, genre je sais pas pourquoi ils sont, et là du coup ça, il y a des affrontements un peu partout pareil contre les flics. On a vu aux Champs-Élysées où il y avait tous les Champs-Élysées étaient bloqués par les Algériens, et il y a eu des vieilles dames, des jeunes machin qui se faisaient gazer, des gens qui n'ont jamais été, qui n'ont pas jamais fait de manif ou qui ne sont jamais fait gazer, ils se sont fait gazer à cette occasion là à Saint-Étienne pareil, il y a eu voilà. En gros, c'est ce que je trouve, c'est un exemple, voilà, de dire où c'est qu'il peut y avoir aussi de la subversion, mais sans chercher juste la subversion pour la subversion. Il y a des trucs quand même où ce genre de prétexte permet des situations où on peut dépasser et mettre le cadre légal, le cadre de côté. Donc on peut le mettre de côté. Voilà, je fais un peu en speed. Peut-être une prochaine fois on reparlera de ça.
Ouais, on n'aura pas eu le temps de parler de tous.
Ouais, on refera une autre émission. Ouais. Bah, attends, je voulais quand même reparler. Vas-y. En fait, il y a eu juste un épisode quand même qui a été, voilà, comme exemple. Il y a eu Algérie-Égypte. Bon, alors Algérie-Égypte, en Égypte, Égypte-Algérie. Et donc, il y a des supporters algériens qui se sont déplacés et tout. Et donc, il y a eu des morts. Le bus d'Algérie a été attaqué. Donc, ça a été alimenté par. Les médias et tout, il y avait un rôle quand même un peu pourri, et puis il y a eu des morts quand même. Et là en retour, donc les Algériens ont donc il y a eu le bus attaqué et des supporters morts en retour, donc retour à la fin du match et tout, bon, l'Algérie a perdu. Et ben il y a eu en Algérie, il y a un opérateur téléphonique comme on dirait SFR ou je sais pas quoi, Jay-Z, et ils sont égyptiens, c'est un opérateur téléphonique égyptien. Et ben cet opérateur là, après le match Égypte-Algérie, et ben toutes les agences de cet opérateur là ont été détruites. C'est-à-dire que pendant quelques jours, ou je sais plus combien de temps, il y avait plus par exemple de SFR en Algérie, Jay-Z là, l'opérateur, il y avait plus de réseau téléphonique Jay-Z en Algérie, parce que toutes les agences ont été cassées et le réseau arrêté quoi. Juste par vengeance contre, enfin tu vois, comme quoi il peut y avoir des trucs. Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse.
C'est bien.
Et puis, ah merde, c'est déjà 1 heure.
Et ouais, c'est déjà 1 heure.
On voulait faire plein de trucs, mais
on voulait faire plein de trucs. Bah,
peut-être qu'on pourrait parler de. Il y a une question quand même d'un anonyme qui disait ouais. Qu'est-ce qu'ils ont ces gens contre les PD et les fils de pute? Et peut-être que toi, non, Michel, tu voulais répondre?
Michel, c'est pas.
Ah, oui, ouais.
Non, Serge plutôt.
Non, bah, je lui répondrais de. de lire un texte qu'on n'aura pas le temps de lire, mais de Ouskangas Eros, où il parle du mouvement hooligan, et en fait il parle des insultes racistes dans le stade, en disant que c'était souvent plus symbolique qu'autre chose, et on peut dire que c'est pareil pour contre les PD, les méchants.
Oui, parce que par exemple, chanter Lyonnais, vous êtes pas beau, ça a moins de gueule que Lyonnais enculé, quoi.
Ouais, bon, voilà, après, c'est des choses.
Après, c'est pas fin non plus.
Moi, je l'explique pas non plus, mais bon.
Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une raison à tout.
Voilà, bon, et puis bon, on
va pas tout expliquer. On va pas tout expliquer. Mais c'est bien aussi d'en parler.
Voilà, on voulait. Ouais.
Abreuver de bière, ça aide aussi à chanter des trucs comme ça.
Ah, bah ouais, bon, ça vrai. Peut aider à plein de trucs, mais bon.
C'est vrai. Bon.
On termine un peu avec.
On termine. Ouais, bah, voilà. Bon, bah, à plus.
Salut.
Merci d'être venu.